Heure temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, le dialogue des religions. Idrissa Seydou Dia vous invite à parler de la proclamation du rétablissement du califat islamique par les djihadistes en Irak. Que signifient ces décisions pour la région et le reste du monde? Vos avis tout à l'heure, mais avant, un bulletin d'information. L'offensive africaine contre l'Ebola, 11 ministres africains de la Santé sont réunis à Accra, au Ghana, pour coordonner les efforts de lutte contre l'épidémie. L'Organisation mondiale de la Santé, qui a convoqué cette réunion d'urgence, appelle à une réponse forte pour contenir l'épidémie, en particulier aux frontières de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. 467 personnes ont succombé au virus dans la sous-région cette année. Ahmed Abou Katala, le Libyen capturé par les États-Unis et transporté à Washington pour être jugé, était motivé par son extrême ferveur contre l'Occident. C'est ce qu'ont déclaré aujourd'hui les avocats du gouvernement américain. Katala doit rester en prison jusqu'à la tenue de son procès. L'homme de 43 ans a plaidé non coupable. Il est accusé d'avoir participé aux attaques du 11 septembre 2012 contre le consulat américain à Benghazi, où des citoyens américains ont été tués, dont l'ambassadeur Chris Stevens. Naufrage au large de l'Italie, environ 75 personnes sont portées disparues. D'après le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, ce drame se serait produit ces derniers jours dans le canal de Sicile, qui sépare l'Afrique du Nord des côtes italiennes. Il intervient alors qu'il y a 3 jours, 45 cadavres ont été découverts à bord d'une autre embarcation de réfugiés. Le Programme alimentaire mondial, une agence onusienne, annonce la réduction de son assistance à près de 800 000 réfugiés en Afrique. Cette baisse de 40 à 60% affectera des réfugiés en Centrafrique, au Soudan du Sud, au Tchad, en Ouganda, en Mauritanie, au Ghana, au Libéria et au Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Hors de l'Afrique, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou appelle à une enquête rapide sur l'enlèvement et l'assassinat d'un adolescent arabe à Jérusalem, Bagassi Koura.
La police n'a pas encore identifié le corps, mais a été alertée après qu'un jeune Palestinien a été forcé dans une voiture dans un secteur arabe de Jérusalem. Des proches craignent que le cadavre calciné découvert dans la vieille ville soit le sien et que ce serait en représailles à la mort de 3 adolescents israéliens en Cisjordanie. La tension est tombée d'un cran dans un quartier de Jérusalem-Est. Des centaines de Palestiniens ont lancé des pierres sur les forces israéliennes qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a accusé l'État hébreu. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a demandé pour sa part l'application stricte de la loi pour savoir qui était derrière ce qu'il a qualifié d'assassinat répréhensible.
En France, après 15 heures de garde à vue, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été mis en examen pour corruption active et trafic d'influence actif, ainsi que pour recel de violation du secret professionnel. Dans un entretien accordé à TF1 et Europe 1, Nicolas Sarkozy dénonce une instrumentalisation politique de la justice et affirme n'avoir jamais commis d'acte contraire à l'état de droit. Alain Auffray, chef du service politique du journal Libération, revient sur les implications politiques de cette mise en examen.
C'est quand même une très grosse surprise. Ce qui est surprenant, c'est surtout la gravité de l'inculpation. Il s'agit là de corruption active. Ça veut dire qu'on peut faire l'hypothèse que les juges ont trouvé des choses qui permettent de mettre en cause directement Nicolas Sarkozy dans cette affaire, qui en soi d'ailleurs n'est pas gravissime. Il a juste essayé d'avoir des renseignements sur une affaire le concernant auprès de magistrats. Mais enfin, s'il a promis des choses en échange, et si c'est avéré, on rentre dans quelque chose de très très embêtant pour lui. Alors, pour répondre à votre question, oui, ça contrarie complètement ses plans d'origine. Il était parti pour revenir un peu en majesté, en espèce de nouveau De Gaulle qui vient sauver le pays du désastre, et voilà qu'il est obligé de s'expliquer sur son propre cas devant à la télévision, de éventuellement de reprendre le parti. Enfin, tout ça ressemble pas du tout à la figure de l'homme providentiel ou du général De Gaulle.
Alain Auffray, chef du service politique du journal Libération, joint à Paris par Claire Morin-Gibou. Et le climat de violence persiste dans l'est de l'Ukraine un jour après que le président Petro Porochenko a mis fin au cessez-le-feu unilatéral de 10 jours qui n'a produit aucun résultat. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Gardez vos sièges dans un instant. Dialogue des religions, le magazine consacré à la religion avec Idrissa Seydou Dia.
foi et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous et à toutes. Au micro, Idrissa Sedoudia, dans le dialogue des religions du 2 juillet 2014, la proclamation du rétablissement du califat islamique par les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Le groupe a aussi désigné son leader, Abu Bakr al-Baghdadi, calife de tous les musulmans. Que signifient ces décisions pour la région et le reste du monde ? Nos invités, l'imam Issouf Doumbia, imam et membre à la mosquée Al-Usuna Wal-Jamara à Philadelphie, et notre ami Fidel Ayou Loumeya, écrivain consultant en développement des organisations. Bonsoir imam, bonsoir Fidel.
Bonsoir.
Salut les auditeurs et auditrices.
Alors, merci d'être avec nous ce soir. Avant de passer à vos coups de fil, chers auditeurs, et à vos commentaires et questions sur Facebook, laissez-moi d'abord demander à l'imam Doumbia de faire ici le professeur d'histoire. Imam, qu'est-ce que le califat dans l'histoire de l'islam ?
Alors, bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs. Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah. Alors, je suis l'imam Doumbia, imam à la mosquée Ahl Sunna wal Jama'a. Vous avez dit Jamara, c'est pas Jamara, c'est Jama'a. Jama'a qui veut dire le public. Alors le calife était celui qui devait remplacer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète lui-même, lorsqu'il est décédé, le premier calife, son premier successeur a été Abu Bakr. Ensuite, après Abu Bakr, il y a eu Omar. Après Omar, il y a eu Othman. Et après Othman, il y a eu Ali. Alors, ce sont ceux-là qui ont été appelés Al-Khulafa Al-Arba, les quatre successeurs, les quatre khalifs, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète avait prédit qu'après lui, il y aura des khalifs. Et qu'après cela, alors la chefferie en islam va être, disons, va passer dans une autre main. Ça sera des rois qui seront équitables. Et après, on va voir des rois corrompus et les gens vont tomber dans la, si tu veux, la turpitude. Et c'est ce qu'on peut constater de nos jours, puisque le meilleur des temps, c'était le temps du messager de Dieu. Après lui, son temps, il y a eu le temps des quatre khalifs. Et après cela, il y a eu quelques rois, après ceux-là, qui étaient équitables. Et après, les gens se sont accaparés la chefferie. Ils se sont battus même pour être chefs. Ils ont menti pour être chefs. Et c'est ce qui continue de nos jours. Lorsque vous voulez être chef, que ce soit dans un pays musulman ou pas, alors il faut faire la propagande, il faut prouver que tu peux tout faire pour le peuple. Et lorsque vous êtes élu, alors vous mentez au peuple. Et lorsque vous êtes élu, vous ne pouvez même pas réaliser les 50% de votre programme. Et vous voulez tout le temps rester au pouvoir. Donc aujourd'hui, quand d'autres prétendent encore d'être des califes pour tous les musulmans, alors, il faut d'abord que les musulmans eux-mêmes soient consentants pour ce calife et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce que c'est le calife qui va mettre l'islam proprement en jeu, ou c'est le calife qui va venir s'accaparer de la richesse de ce pays-là et profiter de cela avec les membres de sa famille et tous ceux qui lui sont proches? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre cela.
Merci, imam Issouf Doumbia. Alors, Félix, plutôt Fidel, je voudrais savoir si la réalité géopolitique permet à ces messieurs de l'État islamique en Irak et au Levant de réaliser de façon réaliste leurs rêves, leurs projets de califat.
Merci à Idrissa et puis je salue aussi à l'imam et merci pour cette information. Il y a beaucoup de choses que vous avez soulevées, imam, que je n'ai pas su quand je lisais sur le texte sur le califat. Sur le plan institutionnel, parce que c'est là où je travaille plus avec les institutions pour regarder leur capacité institutionnelle. Comment est-ce que leurs rêves deviennent leur réalité? Comme vous l'avez entendu, l'imam l'a bien décrit, que le passage du rêve que le prophète avait, Dieu bénit son âme, à la réalité, a connu des problèmes, et le problème dont l'imam a soulevé était d'ordre moral et éthique. La corruption, l'idée était bonne, mais les gens qui devaient mettre en application cette idée étaient corrompus. Et l'imam a fini par questionner la capacité morale d'Abou Bakr. Comment il va le faire? D'abord, il ne consulte pas d'autres zèles de l'islam qui sont des chiites et les autres groupes. Il veut installer un califat en excluant les autres parce que jusque-là, ce sont des sunnis, des sunnites. C'est la première question. Comment est-ce qu'il réunit toutes les tendances islamiques pour aller de l'avant? Ça, c'est du côté capacité institutionnelle. Donc, le passage du rêve à la réalité. Sinon, cela devient une illusion. Et nous avons vu cela avec ce qui s'est passé en Afghanistan, où ceux qui ont pris l'Afghanistan avaient ces rêves-là du califat qui part du Levant au coucher du soleil. Mais aujourd'hui, quand on regarde les violations des droits de l'homme, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Et Abou Bakr vient pour répéter les mêmes histoires. Il a en main 450 millions de dollars qu'il a pris dans le banque. Ça, c'est déjà du vol. Et je ne crois pas que vous pouvez partir du vol à être sérieux, parce qu'il ne pouvait pas prendre cet argent-là. Et maintenant, il y a plus de 7 millions de gens qui sont des enfants qui dorment dehors à cause de lui. Je ne crois pas que ces enfants vont suivre un tel leader. Je m'arrête là dans l'entretemps.
Ok, merci Fidèle. Je reviens maintenant à l'imam Youssouf Doumbia pour parler de ce califat. En réalité, imam, c'était aussi le rêve de Oussama Ben Laden.
Bon, je ne sais pas si c'était le rêve de Oussama Ben Laden parce que je ne connais pas trop de Oussama Ben Laden, mais il faut savoir que pour qu'il y ait la khalifa dont le prophète avait parlé, et de nos jours, ça ne serait pas vraiment facile. Voilà, ça ne serait pas facile. Alors, les musulmans, partout dans le monde aujourd'hui, on peut dire qu'ils n'ont pas de khalif. Ils n'ont pas de chef spirituel comme on peut voir dans d'autres religions où tout le monde suit un chef qui est si vous voulez quelque peu vénéré. Simplement, leur guide est le livre qui est le Coran que Dieu leur a laissé et les dires du prophète qui sont les hadiths. Alors, comme le prophète lui-même a prédit, je vais partir, mais je vais laisser entre vos mains le Coran et mes paroles, mes hadiths. Alors, si vous accrochez à ces deux choses-là, alors vous ne vous perdrez jamais. Alors, c'est avec vraiment regret qu'on constate que d'autres ont une mauvaise lecture de ces deux références du livre de l'islam, ces deux références de l'islam, qui sont, si vous voulez, les baromètres, les guides même de la communauté. En même temps, si vraiment vous avez eu des gens qui comprennent et qui ont une bonne lecture de ces deux références, vous serez guidé sans forcément imiter quelqu'un qui va prétendre que lui est le chef et qu'il doit être suivi.
Il a dit que toute la Oumma, toute la nation, toute la famille musulmane devrait faire acte d'allégeance. Et il vous a demandé, à vous aussi, imam Youssouf Doumbia, de faire acte d'allégeance. Alors, allez-vous faire acte d'allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi?
Qui a dit ça?
Abou Bakr al-Baghdadi.
Je n'ai pas suivi ça. Ben, moi, je ne le connais même pas d'abord. Voilà, moi, je ne le connais pas. Moi, j'ai mon Coran, j'ai mes hadiths et je pratique mon islam. Alors, ce qui fait que moi, je ne suivrai pas quelqu'un qui va... tout ce qu'on vient de dire sur lui, ça salit déjà son image. Le fait d'aller s'accaparer des biens du pays et d'envoyer des gens dans la rue, d'amener d'autres à être affamés. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on a vu les khalifs qui ont suivi le prophète. On a vu Omar, par exemple. Lui, lorsqu'il était à la charge, lorsqu'il était devenu le khalif du prophète, il ne dormait jamais sans savoir que tout le monde dort en paix dans la cité où il était, qui était Médine. Donc c'était l'homme qui était équitable. C'est l'homme qui se souciait parce qu'il se disait que Dieu va me poser des comptes, il va me demander des comptes sur tout ce que j'ai géré. Donc il ne dormait jamais sans savoir si toute la ville était en sécurité avant de s'endormir. Et dans sa quête de cela, un jour, il va tomber sur une femme qui était affamée avec ses enfants. Et Omar ira chercher de la nourriture pour venir donner à cette femme. Et comme la femme ne savait pas que c'était lui, celui qui l'accompagnait, elle va dire à la femme, « Est-ce que tu connais ce monsieur ?» Elle va dire, « Je ne le connais pas. Mais je le remercie, il est mieux que celui qui prétend être notre chef, qui est Omar. » Alors, après, le monsieur va lui dire, « Effectivement, c'est Omar qui allait ainsi chercher de la nourriture pour vous, c'est lui, Omar. » Voyez-vous?
Oui.
Donc, aujourd'hui, des gens, combien de gens qui vont prétendre, ce n'est pas celui-là seulement, c'est dans tous les pays, qui prétendent être des chefs, alors qu'ils sont chefs pour eux-mêmes. Ils ne se soucient pas de la santé, de l'eau potable pour la population, de l'électricité pour les gens. Donc, du minimum même pour que les gens vivent en paix.
Okay.
Tout est pour que eux-mêmes ils soient à l'aise avec leurs proches et leur famille et ceux qui prétendent qu'ils sont vraiment les vrais leaders. Donc que Dieu aide ses frères musulmans qui sont dans ce nouveau problème là-bas, parce que ça c'est un nouveau problème et ça peut salir l'image de l'islam.
Merci Imam, on reviendra tout à l'heure à vous et à notre ami fidèle Ayou Lumeya. Et aussi aux questions des auditeurs et à quelques commentaires. Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Dialogue des religions, tous les mercredis à partir de 19h TU. Pour intervenir en direct, vos numéros de téléphone, questions et remarques sont les bienvenus sur notre page Facebook ou à l'adresse suivante fr@voanews.com.
Alors, notre ami de l'autre côté de la vitre, Joselle, m'a dit que nous avons M. Kwame Fulgence qui est en ligne. Alors, Kwame, à vous l'antenne.
Ok, moi j'ai une question ou même deux questions.
Allez-y.
Je voulais savoir qui est derrière, qu'est-ce qui favorise en fait cette montée en puissance des djihadistes dans ce moment-ci. Maintenant, bon, je voulais encore savoir qui est derrière tout ça. Qui est derrière tout ça?
Ok, merci beaucoup.
Ok, merci, monsieur.
Ok, alors, merci beaucoup pour votre question, Kwame Fulgence.
Okay.
Alors, qui veut répondre à cette question, Imam ou Fidèle?
Je peux commencer, et puis peut-être l'islam, l'imam va compléter.
Ok, allez-y.
Ouais. Qu'est-ce qui favorise le djihadisme? Nous l'avons dit mercredi passé, Kwame, si vous avez suivi, nous parlions de l'islam, du christianisme qui se développe comme des petits pains au Congo, où nous avons souligné que dans l'histoire de crise étatique, à chaque fois qu'il y a des crises financières dans un État, la religion croissent. Les gens se tournent vers la religion pour le réconfort. Et quand cette crise financière et économique passe, les gens se remettent dans leurs vieilles habitudes. Donc la religion ici sert de ce que Karl Marx a appelé de l'opium. Ça vous fait dormir. Et nous voyons cela. C'est du même côté, c'est de la même façon aussi avec le djihadisme. Les jeunes qui quittent les États-Unis, la France, tout le pays et qui rejoignent Abou Bakr en Syrie et maintenant en Irak, ils ne vont pas là-bas par plaisir. Ce sont des enfants qui viennent soit des familles où le papa n'est plus présent, où il y a beaucoup de crises de travail, ils ont des diplômes, mais ils ne trouvent rien. Ici, ce mouvement avec les promesses offre une opportunité de survie pour tous ces jeunes et tout ce monde qui est en crise spirituelle, mais aussi matérielle.
Merci.
Parce qu'en réalité, quelqu'un qui pense et qui réfléchit et qui est stable ne peut pas croire qu'un homme, comme l'imam l'a dit, que l'imam seul ne connaît même pas, peut féoder tout l'islam et devenir le chef où il va étendre l'islam dans tout le monde entier. Et lui devient comme le pape catholique, qui n'est même pas suivi par tout le monde. Donc ça, c'est une folie. Mais vous devez être dans une certaine crise pour aller. Encore une fois, donc, les crises économiques favorisent le djihadisme.
Merci.
Et les crises financières.
Merci, fidèle. Imam Issouf Doumbia.
D'abord, pour parler de djihad, il faut connaître ce que c'est que l'islam. Il faut qu'il y ait un État et qu'il y ait effectivement un gouverneur pour qu'on puisse parler de djihad. Et quand il y a un État, cet État-là reconnu par les musulmans, puisqu'ils seront les gouvernés, donc le gouvernant reconnu, alors on peut parler de djihad si toutefois il y a d'autres qui veulent s'attaquer à cet État-là et qui ne veulent, ceux qui viendront, qui ne veulent pas que la loi de Dieu soit appliquée sur terre. Donc actuellement, si on veut regarder, il ne peut pas avoir de djihad si on veut regarder islamiquement parlant, parce que les conditions ne sont pas remplies. On n'est pas quelque part où des gens sont en train de dire que vous ne pouvez pas, en tant que pays, appliquer l'islam. C'est comme l'Arabie Saoudite. Qui peut aller attaquer l'Arabie Saoudite aujourd'hui pour dire qu'ils ne doivent pas appliquer leur charia? Personne. Celui qui le fait, on doit être attaqué et il doit avoir djihad pour cela. Donc, s'il n'y a pas d'État islamique où la charia est appliquée et qu'ensuite quelqu'un vienne de dehors pour dire que vous ne devez pas adorer Dieu, mais vous en prenez aux gens pour les tuer, pour dire que vous faites la djihad, ça c'est mal comprendre cette religion. Voilà. Donc Dieu le dit dans le livre, ceux qui vous ont pas empêché d'adorer Dieu, vous ne devez pas les tuer.
Très bien.
Vous les laissez faire comme ils veulent sur terre. C'est eux qui seront jugés par Dieu. Vous n'avez qu'à prêcher la bonne parole. Ceci est bon, ceci n'est pas bon. Mais vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à être forcément musulman ou à vous suivre dans votre manière de voir. Parce que c'est Dieu qui détient le cœur et c'est Dieu seul qui peut guider les gens.
Alors...
Donc, comme mon prédécesseur l'a dit, aujourd'hui, les jeunes sont souvent, si vous voulez, embobinés. Ils se retrouvent parce qu'on va leur donner de l'argent et on leur prétend le paradis en suivant ce genre de voie. Alors que si tu meurs de cette manière, d'abord tu es allé sans le consentement même de tes parents, par la vraie djihad au temps du prophète, quand tu voulais y aller, ils te demandaient si tu as tes géniteurs, va d'abord avoir leur consentement. Une fois, quelqu'un s'est présenté à lui, il lui a demandé « Est-ce que ton père et ta mère vivent ?» Il a dit « Ma mère vit. » Il a dit « Va demander le consentement de ta mère ou va t'occuper de ta mère. » C'est le meilleur des djihads.
Merci.
Au lieu de venir prendre l'épée. Voyez-vous.
Merci.
Donc aujourd'hui, les gens confondent tout à la fois.
Effectivement, il y a une grande confusion au sujet du djihad et des djihadistes. L'imam Issouf Doumbia, imam et membre à la mosquée. Alors là, je vais essayer encore une fois de le dire correctement. Ahlus Sunnah wal Jamaha à Philadelphie. J'ai bien dit cette fois-ci, imam? Allô?
Oui.
Ok, parfait. Alors, nous avons Alphonse de Kinshasa. Alphonse, pour qui?
Oui, il est passé au Doumbia. Je voulais savoir.
Voulez-vous couper votre radio là? On vous entend, il y a un retour.
Oui, je m'en éloigne. Je voudrais savoir, pourquoi vous, musulmans, vous avez le même Coran? Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence de compréhension de la parole de Dieu dans votre Coran? Parce qu'il y en a qui sont pour l'amour, pour la tolérance, mais d'autres sont des djihadistes. Ils refusent l'amour, la tolérance, ils veulent imposer la charia. Alors que c'est le même Coran. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait dualité de compréhension?
Ok, attendez. Bon, imam, nous avons le même Coran, mais nous l'interprétons différemment.
Je crois que c'est comme vous avez la même Bible et vous l'interprétez de la même manière différemment. C'est comme ça. Ça, c'est l'être humain devant la parole de Dieu.
Effectivement, on peut faire dire n'importe quoi au Coran, on peut faire dire n'importe quoi à la Bible, c'est la nature humaine.
Ça, c'est l'être humain.
Effectivement. Alors, comment dirais-je? Moi, j'aimerais vous demander, imam, parce que parlant toujours de Abu Bakr al-Baghdadi, il a demandé aux musulmans de profiter du Ramadan pour venir renforcer ses troupes et prendre d'autres territoires. C'est le sens du Ramadan?
Alors, ça dit que lui, il va avoir des jeunes, il va avoir des jeunes qui vont l'écouter, mais il faut savoir que ça n'ira pas loin, c'est ce qui est la vérité, parce qu'il ne remplit pas les conditions pour faire une djihad en islam. Voilà.
Imam,
donc ça n'ira pas loin.
Ça n'ira pas loin. Imam, il faut quand même que je pose la question, parce qu'on parle des sunnites et l'Irak est majoritairement chiite. Alors, quand est-ce qu'on a eu la cassure entre chiites et sunnites ou vice-versa?
Bon, la cassure vient de très loin. C'est depuis, si vous voulez, après la mort du prophète. Alors, pour raccourcir, d'autres ont pensé que celui qui devait remplacer le prophète comme successeur devait être son cousin Ali.
Et gendre, il était son gendre aussi.
Il était son gendre et son cousin. Donc, pour ceux-là, la succession devait être, si vous voulez, héréditaire, parce que c'était son cousin direct, c'est lui qui devait le remplacer. Par contre, quand on regarde dans les écrits et les références, c'est Abu Bakr qui devait remplacer le prophète, puisque combien de signes et combien de preuves montrent que, effectivement, c'est lui qui devait le remplacer après sa mort. Je prends simplement une seule preuve. Lorsque le prophète était malade, il s'est évanoui. Et les gens attendaient dans la mosquée, ils n'avaient pas prié, puisque sa maison était juxtaposée à la mosquée. C'était l'antichambre de la mosquée. Et quand il va revenir à lui, il va demander est-ce qu'ils ont prié. Alors sa femme Aïcha va lui dire non. Et il va s'énerver, il va se fâcher même parce que les gens ont retardé de prier à l'heure. Il va dire est-ce que Abu Bakr n'est pas parmi eux pour dire si je ne suis pas là pour accomplir en tant qu'imam, pour diriger la prière, est-ce que Abu Bakr n'est pas là? Donc voilà la preuve. Une des preuves pour dire que s'il n'est pas là, celui qui doit le remplacer, c'est Abu Bakr.
En d'autres termes, en langage moderne, c'était Abu Bakr son dauphin, mais les chiites disent que ça devait être Ali, en quelque sorte.
Voilà. Bon, donc ça c'est la compréhension des gens et en même temps, celui qui l'a envoyé, c'était celui aussi qui était connu, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui sont chiites, ceux qui pensent que Ali est supérieur à tous les disciples du prophète, ils se trompent parce qu'on a posé la question à Ali lui-même, qui est meilleur parmi les disciples du prophète? Ouais. Alors Ali va dire c'est Abu Bakr, et ensuite il va dire Omar, ensuite il va dire Othman, ensuite il va même pas vouloir se nommer.
Merci, merci Imam. Merci Imam. Imam Issouf Doumbia, Imam est membre à la mosquée Arlusuna au Al-Jamaha à Philadelphie et notre ami Fidel Ayou Lumea, écrivain et consultant en développement des organisations. Je remercie encore une fois Joselle Morissin de l'autre côté de la vitre. C'était au micro Idrissa Seloudia, le dialogue des religions, la voix de l'Amérique, Washington.